Bien. Aujourd'hui, on va davantage, on va être plus proche des textes, de quelques textes, il y en a plus, de manière à être plus précis. Et puis, je commenterai au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On a vu le chant d'entrée la fois dernière. Le chant d'entrée, hein, j'ai dit peu de choses sur le chant d'entrée. Donc, c'est donc ce chant qui accompagne la procession. Un chant qui rassemble, qui doit être assez connu quand même. Pourquoi? Parce que justement, il signifie l'unité, hein. Il est là pour rassembler les personnes qui sont déjà présentes. Mais si le chant n'est pas très connu, eh bien, ça n'aide pas au rassemblement. Donc, je dis ça pour les mariages, par exemple. Vous voyez, dès que je fais un mariage, je dis, ben, attendez, votre chant d'entrée, il ne faut pas le louper, là. Hein. Parce que sinon, vous perdez déjà tout le monde là dès le début. Bon, voilà. Donc, on va voir dans ce chant d'entrée qu'est-ce qui se passe. Hein. Il accompagne une procession, la procession du prêtre. Donc, on va travailler un petit peu sur le sens du prêtre et des fidèles. Et puis, on va comprendre ce que c'est que l'autel et le baiser de l'autel. Voilà, on s'arrêtera là. Bon, c'est beaucoup, hein, je sais, mais bon. Voilà. Donc le sens du prêtre, hein, c'est celui qui va signifier donc la présence du Christ au milieu de son peuple. Ce qui veut dire, vous voyez, c'est le prêtre qui rassemble. Il y avait une certaine mode à une époque, hein, où il y avait une animatrice qui disait bonjour à tous, bienvenue, voilà, nous allons avoir comme thème pendant cette messe, donc je sais pas quoi, le bon berger, et puis nous aurons ceci, cela. Voilà. C'est très bien que l'animatrice dise bonjour, page 50, voilà. Elle ne va pas commencer à faire tout un laïus. C'est pas le, on n'a pas de problème là, hein, dans nos paroisses, mais voilà, parce que c'est le prêtre qui va rassembler, hein. C'est lui le bon berger, et c'est pas l'animatrice. Le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Ou l'animateur, oui. J'ai pas dit l'animateur. Mais non, mais c'est ce que j'ai un faible pour les animatrices. Bon. Non, mais je trouve que le chant est quelque chose d'assez féminin aussi. Enfin bon. Enfin, c'est. Quand j'en parle Enfin, j'en parlerai plus tard avec le psaume. Bon, le chant, il y a un côté gracieux, tout ça, donc je trouve que les animatrices. Mais bon, les animateurs peuvent chanter aussi, hein, c'est pas Jean-Marie qui chante. Bon, alors, le prêtre, il va agir, d'abord, comme on dit, il agit in persona Christi. Ça vous a dit peut-être quelque chose, ça. Hein, c'est quelque chose qu'on entend, il y a deux, trois mots latins comme ça. Hein, il agit donc dans la personne du Christ tête. Une persona Christi capitis. Alors, je vous propose le premier texte sur vos feuilles. C'est donc le même prêtre Jésus-Christ, mais dont la personne sacrée est représentée par son ministre. Celui-ci, en effet, par la consécration sacerdotale qu'il a reçue, est assimilé au souverain prêtre et jouit du pouvoir d'agir avec la puissance et au nom du Christ lui-même. C'est pourquoi, par son action sacerdotale, d'une certaine manière, il prête sa langue au Christ, il lui offre sa main. Donc le prêtre agit in persona Christi, dans la personne du Christ, c'est-à-dire que le Christ a comme une main mise sur le prêtre. Ça ne veut pas dire que il ne célèbre pas la place du Christ. Hein, le prêtre ne célèbre pas la place du Christ. C'est plutôt le Christ qui va se servir de lui comme d'un instrument. Vous saisissez les choses? Bon, c'est une petite nuance. Bon. Le prêtre continue de réaliser l'action même que le Christ a faite à la première scène. Le Christ, donc, se sert des paroles du prêtre, des gestes du prêtre pour réaliser ce mystère d'amour. Et du coup, je pense à. Vous voyez, si je faisais une retraite, par exemple, sur ce thème-là, je dirais, tiens, peut-être que vous pouvez aller prier en méditant le prêtre Jean-Baptiste. Parce que le prêtre Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, je suis la voix, ça veut dire je suis l'instrument. Je ne suis pas la parole. Vous voyez? Et d'une certaine manière, Dieu va se servir de moi, Jean-Baptiste, pour être le canal, la voix, et pas la parole. Pourquoi pas la parole? Parce que, vous voyez, le prêtre est l'instrument du Christ. Il va rendre présent le Christ. Donc, il va falloir qu'il fasse attention, hein. Tu n'es pas là, toi prêtre, pour faire un one-man show, pour ramener à toi. Tu es là pour rendre présent le Christ. Donc c'est toujours la, comment dire, la, il y a deux extrêmes, deux dangers pour le prêtre. Soit il a un ton un peu monocorde, un peu qui est un peu impersonnel, mais il veut tellement être l'instrument qu'il en perd sa personnalité. Soit c'est l'autre extrême, vous voyez, il veut qu'il, c'est tellement répétitif la messe qu'il dit, allez, il faut que je fasse un peu du show là. Bon, alors attends, voilà, il faut trouver cette juste distance. Et Jean-Baptiste, c'est beau parce qu'il dit, je ne suis pas. Es-tu Élie? Es-tu le nouveau prophète? Je ne suis pas. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. C'est exactement le prêtre, ça. Il faut que je sois un instrument. Je suis celui qui détient, qui, dans lequel est déposée cette parole et que je vais redonner. Et c'est très beau dans l'évangile, hein, le début de l'évangile par exemple de Marc, eh bien quand on nous parle de Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans le désert et il reprend Isaïe. En fait, comme s'il n'avait pas de parole personnelle, il reprenait les paroles d'Isaïe. La deuxième chose, deuxième fonction du prêtre, il va agir in persona ecclésiae. Alors, dans la personne de l'Église, il va, représenter l'Église. C'est la deuxième chose. Alors, vous voyez, c'est la différence entre un sage et un médiateur. Hein, le sage, parce que le prêtre pourrait être un sage un peu, au sens quelqu'un qui donne une sagesse. Mais oui, mais le Christ est plus quelqu'un qui donne une sagesse, ou je sais pas trop. Il est celui qui est médiateur, c'est-à-dire il est celui qui va me rendre présent. Moi, l'assemblée, moi qui suis, il va parler en mon nom. Il est tourné vers Dieu. Un petit peu comme Abraham, vous savez, dans l'épisode avec Sodome et Gomorre. Hein, eh bien, il est là à discuter avec Dieu. Écoute, s'il y a, 30 justes, est-ce que on peut... Tu vas pas détruire la ville. Ah, s'il y en a 20, s'il y en a 10. Hein, il représente la communauté. Pourquoi on se confesse à un prêtre? Il y a une raison psychologique qui est de dire on met son péché à l'extérieur de soi. D'accord? Mais aussi parce que, en péchant, on a blessé la communauté. On a blessé l'Église. Et celui qui va représenter l'Église, enfin, mes frères, qui me pardonnent, c'est le prêtre. Vous voyez? Il va représenter cette communauté. Quand je suis dans ma chambre, je peux très bien demander pardon à Dieu, et Dieu me pardonne. Mais qu'est-ce qui me dit que l'Église me pardonne, au sens mes frères? Eh bien, c'est le prêtre, voilà, qui représente chacun d'entre nous. Donc on va dire, par exemple, il y a des expressions que vous trouvez dans des documents, on va dire, tiens, le prêtre ou l'évêque doit être l'homme de la communion. Ce qui est assez juste, c'est-à-dire qu'il doit, faire la communion entre les personnes, il doit représenter un peu tout le monde. C'est toujours le problème. C'est un prêtre, il est que pour les jeunes. Ah, s'il est que pour les jeunes, il ne me représente pas. Ou il est que pour les personnes âgées. Ah ouais, le père Paul, il est que pour les... Enfin... Et donc, il faut que le prêtre, chacun s'y retrouve. Tiens, je sens qu'il est pour moi. Hein, il me représente aussi. Alors, vous avez un beau texte du pape François qui explique ça de manière assez... je ne m'attendais pas à ce que dans une homélie comme ça, il nous sorte ça. Donc, c'était l'homélie du 28 mars, les textes numéro 2, où il reprend le thème du grand prêtre. Et le grand prêtre, il a un vêtement qui s'appelle l'éphode, Et ce vêtement du prêtre dans l'Ancien Testament, en fait, rend présent tout le peuple. Alors je lis avec vous. Les vêtements sacrés du grand prêtre sont riches de symboles. L'un d'eux est celui du nom des fils d'Israël, inscrit sur les pierres d'onyx qui ornaient les épaulettes de l'éphod, dont provient notre actuelle chasuble. Sinon sur la pierre de l'épaule droite, et si sur celle de l'épaule gauche. Donc le prêtre de l'Ancien Testament a un vêtement. Sur ce vêtement, il y a des pierres. Et ces pierres, à chaque fois, il y a six noms à droite et six noms à gauche. Et le pape François n'hésite pas à dire, vous voyez, ce vêtement, en fait, il est celui qui a donné d'une certaine manière naissance à notre chasuble. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Sur le pectoral aussi étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que le prêtre célèbre en chargeant sur ses épaules le peuple qui lui est confié et en portant leur nom gravé en son cœur. Revêtir notre humble chasuble peut bien nous faire sentir, sur les épaules et dans notre cœur, le poids et le visage de notre peuple fidèle, de nos saints et de nos martyrs. De la beauté de la chose liturgique, qui n'est pas seulement un ornement et un goût pour les vêtements, mais la présence de la gloire de notre Dieu, resplendissant en son peuple vivant et consolé, considérons-en l'action. Ouais, c'est une phrase un peu longue, là, mais c'est la traduction. Hein. Voilà. Il ne faut pas simplement considérer cette beauté, voilà, mais il faut en considérer l'action, c'est-à-dire, toi qui t'avances avec cette chasuble, reprends conscience que tu portes avec toi tout le peuple. Voilà, donc il va intercéder. Hein. Mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice. Hein, prions ensemble, voilà, je vous porte. Hein. Et alors, c'est une manière plus symbolisée, par exemple, quand une fois par mois, nous, on va, je le fais, des fois j'oublie, mais on prend les intentions, par exemple, à l'oratoire de Saint-Pédis, et puis on va de manière plus solennelle les porter, voilà, même physiquement. On va les prendre devant l'autel, on chante un chant à l'Esprit Saint, par exemple. Voilà. Vous voyez, et vous avez des gestes comme ça. Bon. Vous apportez les offrandes, puis le prêtre va les prendre et il va reprendre toutes ces offrandes qui symbolisent en fait toutes vos vies. Bon. Voilà, il intercède, voilà, il supplie. D'accord ? Donc il représente le Christ, il représente le peuple. Alors, on a vu cette entrée. Alors, cette entrée du prêtre, j'ai un petit texte que j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment c'est une petite... c'est parce qu'il y a des sacristains parmi nous, et des sacristines. Alors, j'ai dit, c'est important, et puis je trouve ce texte est beau. Où, en fait, la messe, quand est-ce qu'elle commence ? La messe, elle commence à la sacristie, en fait. Bon. Et alors, Jean-Jacques Ollier, il compare le sacristain, mais ça peut être une sacristine, un peu au Père du ciel, qui envoie eh bien, son fils dans le monde. Et c'est vrai que l'entrée du prêtre dans l'assemblée est comme aussi un envoi. Bon, alors lisons le texte pour que ce soit plus clair. Le texte numéro 3. Le sacristain doit être un homme saint et vénérable, parce qu'il tient la place du Père éternel, envoyant son Fils au monde, offrir le sacrifice pour le salut des peuples. Et pour cela, il doit préparer toutes choses en l'Église, en l'honneur des soins que le Père éternel a pris de préparer la synagogue pour recevoir son Fils et de disposer toutes choses nécessaires à son saint sacrifice. Le sacristain se souviendra en parant les autels et en ornant l'Église de tableaux et d'images que le Père éternel avait préparé la terre par les figures et par les cérémonies de l'Ancien Testament, d'ailleurs la liturgie de l'Ancien Testament, afin que son fils ne vînt pas dans un monde nu et dépouillé de toute décence, étant nécessaire qu'à son avènement, le monde fût recueilli par quelque exercice de piété et retiré de l'esprit séculier et de l'état profane où il était noyé. Quand il enverra un prêtre à l'autel offrir le sacrifice, il le fera dans l'amour même du Père éternel, envoyant son cher fils pour sauver le monde, désirant ardemment et priant en son cœur que les peuples se convertissent par l'efficace et le mérite de ce saint sacrifice. Bon, ça vous met la pression. Mais c'est beau, en fait, c'est beau dans le sens que... oui, on est... Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi, vous voyez. On entre dans l'Église, un petit peu comme le Christ entre dans le monde. Et voilà, le sacrifice, un petit peu comme le Père, envoie, rassure, conforte. Et prie pour que, voilà, eh bien, le peuple reçoive le prêtre comme... Le Christ qui agit, voilà, dans la personne du Christ. Ce chant d'entrée, en quelque sorte, cette entrée dans l'église du prêtre, c'est une petite liturgie des rameaux en miniature. Hein? On a ce texte-là, le jour des rameaux, on acclame. Hein, le chant d'entrée va acclamer la présence du Christ, la venue du Christ, et va faire mémoire de toutes les entrées du Christ dans l'Écriture. Hein, quand le Christ entre au temple, quand il est petit, hein, et qui va enseigner les docteurs en leur posant des questions. À plusieurs reprises, vous savez, le Christ monte à Jérusalem, et puis ensuite, il y a cette grande montée, cette grande entrée dans le temple. Il va purifier le temple, hein, on nous dit ça, Luc 21, 37, pour ensuite enseigner. Hein, Luc 19, 45. D'abord, il purifie en Luc 19, 45, il enseigne après Luc 21, 37. Au passage, j'ai envie de dire, c'est une méditation personnelle, mais c'est comme s'il prenait avec lui son épouse. J'ai déjà parlé de l'époux et de l'épouse, je vais en reparler. Hein, l'assemblée est là comme l'épouse du Christ. Hein, c'est l'image du peuple dans l'Ancien Testament qui traverse toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Hein, puisque les derniers mots de l'Apocalypse, c'est l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». L'Esprit, l'Esprit Saint et l'Épouse, l'Église, disent « Viens, viens Seigneur Jésus hein ». Nous appelons le retour du Christ. Et en quelque sorte, vous voyez, quand il entre, le prêtre entre comme ça, dans cette assemblée, avec ce chant, il va comme s'associer, aller prendre avec lui, au passage, son épouse. Pourquoi je vous dis ça? Prenez le texte numéro 4. De la première épître de Pierre. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, comme si le prêtre, c'est une méditation personnelle, mais en venant dans l'église, dit à l'assemblée, au passage, comme si je prenais les gens au passage, en disant, mais approchez-vous aussi, vous, de la pierre vivante, c'est-à-dire approchez-vous de l'autel, hein, parce que vous êtes aussi, vous, des pierres vivantes. Et ensemble, nous allons nous prêter un édifice spirituel, un sacerdoce saint, et nous allons ensemble offrir, eh bien, des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Du coup, vous voyez, quand le prêtre rentre, en méditant sur cette parole de Saint Pierre, il prend conscience qu'il est le temple saint. C'est ce qu'on va voir les textes de dimanche prochain. Hein. On va fêter la basilique. Et vous verrez la deuxième lecture, la basilique du Latran, donc la première cathédrale, la première église de Rome, la première église consacrée, voilà, après Constantin. Et donc, j'ai la présence du prêtre et moi, je prends conscience en même temps que je suis un temple. Hein? C'est toujours le principe, hein? La personne, le prêtre, permet à l'ensemble de prendre conscience de quelque chose. Vous avez ça avec la vie consacrée, hein? Quand je vois une franciscaine, un franciscain, je prends conscience que je suis appelé à vivre la pauvreté. Quand je vois une religieuse, une moniale, je prends conscience que je suis appelé à un face-à-face avec Dieu, à vivre des épousailles. Je ne suis pas appelé à être marié éternellement. Enfin, oui, et un jour, l'un ou l'autre décédera. Voilà, ma vocation, c'est quand même des noces avec le Seigneur lui-même. Hein, et le mariage... eh bien, n'est qu'un signe, qu'un sacrement de noces quand même plus grande avec le Christ lui-même. Donc voilà, c'est ça, voilà, la conscience de l'assemblée. Et du coup, l'assemblée prend conscience en même temps de son sacerdoce. J'ai parlé du sacerdoce du prêtre. On dit oui, en fait, le prêtre, il représente le Christ. Oui, enfin, il représente le Christ, bien sûr. L'Église et chacun d'entre vous qui n'êtes pas prêtre, vous représentez le Christ d'une autre manière. Moi, je représente le Christ tête, mais vous, vous représentez le Christ, peut-être plus dans sa dimension, peut-être le Christ à Nazareth, davantage, le Christ dans le monde, le Christ au milieu du monde. Mais nous avons tous le nom de chrétien. Nous sommes chrétiens. Alors un chrétien, c'est celui qui porte le Christ. Hein. C'est la définition du chrétien, c'est qui rend présent le Christ. Alors, peut-être ça peut troubler certains, ils se disent, ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette religion? On me dit que je suis comme le Christ, que je suis le Christ. Eh bien, prenons le texte numéro 5. Oui, puis avant le 5, on peut prendre même en bas d'ailleurs, en bas, la deuxième partie de la première épître de Pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hein, vous êtes un sacerdoce royal. Rappelez-vous au baptême. Tu es prêtre, prophète et roi. Alors, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une invention de Vatican II. Tu es prêtre. Bon, voilà. Tu es un sacerdoce. Ce n'est pas tout à fait le même. Et c'est ce qui explique le Concile Vatican II. Alors, je lis le texte numéro 5. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du chrétien, autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Et donc, il recite à nouveau la première épître de Pierre. Vous voyez, j'ai envie de dire, si pour un prêtre, je lui donnerais de méditer le premier chapitre de Saint Jean avec la figure de Jean-Baptiste, pour qu'il comprenne son sacerdoce, peut-être pour un laïc, je lui donnerais de méditer eh bien, le chapitre 3 et 4 de Saint Pierre, oui, ou même 2 d'ailleurs, plutôt le chapitre 2. Enfin bref, la première épître de Pierre, elle est vraiment sur le sacerdoce des fidèles. Donc, peut-être le chapitre 2, en tout cas, de la première épître de Pierre. Alors, vous voyez, on nous dit, le laïc doit offrir, porter témoignage sur toute la surface de la terre. Et donc, on nous dit, pour vivre ce témoignage, pour offrir, eh bien, toutes les réalités de sa vie, il doit s'offrir en victime sainte, agréable à Dieu. Le c'est pourquoi est intéressant, hein? Ils sont consacrés les fidèles pour offrir par toutes les activités autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui les ténèbres. Donc, en fait, le fidèle, c'est ça, par toutes ses activités vont être comme des sacrifices spirituels. C'est-à-dire, mes activités, elles sont un moyen de rejoindre le Père. Elles sont sacrées aussi. Depuis que le Christ, en quelque sorte, a chassé les vendeurs du temple, depuis que le Christ a, par son sacrifice, ouvert le rideau du temple, le monde entre le monde sacré, le monde de Dieu et notre monde, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas tellement de différence. C'est-à-dire que toutes nos activités sont là pour rejoindre Dieu. Nos activités sont susceptibles d'être offertes. Souvent, on peut dire, il y a le monde de Dieu, c'est, je sais pas quoi, la messe du dimanche, et puis il y a le reste de ma vie. Et non, le Seigneur, quand il appelle ses disciples, ils appellent au bord de la mer, en plein travail. Comme si en plein travail, eh bien, l'appel de Dieu pouvait se faire ressentir. Hein, Dieu ne parle pas simplement dans le temple, hein, pour reprendre la voix du chapitre 6 d'Isaïe, hein, Dieu, eh bien, parle en tout lieu. Et donc, pour offrir toutes mes activités, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi il doit s'offrir lui-même. J'ai envie de dire ce qui précède l'offrande de nos activités, c'est d'abord l'offrande de nous-mêmes. Tu es, pareil pour un prêtre, hein, tu es le bon berger parce que d'abord tu es l'agneau immolé. Tu es le bon berger parce que d'abord tu es l'agneau immolé. Saint Paul le dit à sa manière quand il dit je meurtris mon corps afin de ne pas avoir couru en vain pour les autres. Hein. C'est bien beau de s'occuper des autres, mais moi aussi, je dois m'occuper de moi et m'offrir moi-même. Alors je continue. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'il y ait entre eux une différence essentielle, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Voilà. Il n'y a qu'un sacerdoce qui est représenté par les deux. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice eucharistique et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie, exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte et par leur renoncement et leur charité effective. Donc je vais dire quelques petites choses. Le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré. Alors attention, le mot pouvoir est à comprendre comme service. C'est-à-dire que le sacerdoce ministériel, les prêtres sont au service des baptisés. C'est pas l'inverse, hein. Voilà, c'est la première chose. Non. Donc, si on aide un prêtre, on l'aide en fait pour qu'il soit davantage au service des baptisés. C'est plutôt à comprendre comme ça. Et alors, on nous dit, en fait, exercer notre sacerdoce. C'est aussi cet exercice se fait par la réception des sacrements. Ils exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière, l'action de grâce. Donc c'est beau, vous voyez. En fait, la première fonction, on le verra, c'est de dire Amen. C'est de recevoir authentiquement les sacrements. Tu veux exercer ton sacerdoce, tu veux être actif. Être actif, c'est pas d'abord jouer de la guitare ou je sais pas quoi. Être actif, c'est recevoir d'une manière parfaite, eh bien, le Christ qui se donne à travers le ministre. Voilà. Derrière, c'est la question de l'épouse. Hein, exercer son sacerdoce, c'est être une authentique épouse. Voilà. Bon. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous verrez le texte suivant, mais je ne vais pas le lire, vous le lirez vous-même, le texte numéro 6, ce que signifie, voyez, ce sacerdoce baptismal. Eh bien, on détaille ce que ça veut dire offrir notre vie. Voilà. Dans le sacerdoce ministériel, on offre le sacrifice du Christ. Dans le sacerdoce baptismal, on s'offre dans le sacrifice du Christ. Hein? Qu'est-ce que ça va être pendant la messe? La messe, eh bien, le prêtre va offrir le sacrifice du Christ. Et les baptisés vont s'offrir dans le sacrifice du Christ. Dans le sacerdoce ministériel, on offre le sacrifice du Christ. Dans le sacerdoce baptismal, on s'offre dans le sacrifice du Christ. Donc, vous voyez, quand par exemple un animateur dira bon, alors, c'est des choses qui n'existent pas ici, mais c'est pas grave. Bon, chers amis, frères et sœurs, levons-nous pour accueillir le célébrant. Ben, le célébrant, c'est pas que le prêtre. Et c'est même mentionné dans la prière eucharistique numéro 1 en détail. C'est pas que le prêtre, non. On est prêtre et laïc à célébrer. Pas de la même manière, mais on est quand même ensemble à célébrer, donc c'est une imprécision. Et donc, voyez, il faut bien comprendre l'Église à la fois comme un mystère de corps, hein, Saint Paul emploie vraiment cette image du corps, mais aussi d'épouse. Pourquoi c'est bien de prendre les deux images? Parce que l'épouse corrige. La dimension du corps. Dans le corps, on est un petit peu tous ensemble, très liés, mais l'intérêt de l'épouse, c'est que ça distingue. L'épouse, elle est face à l'épouse. Il y a une distinction. Et donc, il y a bien, comment dire, il y a bien la tête qui agit, enfin, ou l'époux qui agit en tant qu'époux, et l'épouse qui agit en tant qu'épouse. C'est pas la même chose. Voilà, il y a une distinction. Alors ensuite, nous allons revenir sur cette image d'époux et d'épouse. C'est pour ça que je vous ai mis comme titre l'époux et l'épouse autour de l'autel. C'est le titre de l'enseignement. Avec le baiser de l'autel. Qu'est-ce que c'est que l'autel? Donc ça, c'est ma deuxième partie après les deux sacerdoces qu'on a un petit peu étudiés. On va voir l'autel. Alors l'autel, c'est la première chose qu'on va dire de l'autel. C'est que c'est le Christ, il représente le Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'autel, c'est le Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que le Christ? Le Christ, c'est le lieu de la communication entre le ciel et la terre. Hein? Pourquoi nous sommes en communion avec le Père? Ben, parce que nous avons un médiateur, pas un intermédiaire, un médiateur. Qui est le Christ, qui fait partie du ciel et qui fait partie de la terre. Un intermédiaire, il ne fait pas partie des deux. Hein? Oui, je suis un intermédiaire entre, je sais pas quoi, si j'étais un intermédiaire entre deux personnes, ben je fais le lien entre les deux, mais je ne fais pas partie de votre famille et je ne fais pas partie de l'autre famille, par exemple. Vous voyez, je n'ai pas le sang des deux familles, je n'ai le sang que bon. Le médiateur, il est vraiment homme, donc il fait vraiment partie de notre terre. Et il est vraiment Dieu. Donc il peut nous amener au Père, parce qu'il est vraiment Dieu. S'il n'était pas Dieu, il ne pourrait pas nous amener au Père. S'il n'était pas homme, vraiment, il pourrait pas, il n'aurait pas assumé notre humanité. Hein, et ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Parce qu'il est vraiment homme, il peut nous tirer. Et donc c'est ça, vous voyez, le signe de l'autel qui est un petit peu élevé. En latin, autel, ça vient de altare, qui vient de la racine altus, qui veut dire élevé. Et originellement, l'autel avait plusieurs marches. On a la chance, dans nos deux paroisses, les autels, eh bien, sont au-dessus de quelques marches, pour bien signifier, voilà, qu'il est un petit peu élevé, qu'il est cette petite montagne. Et la montagne, dans la Bible, c'est toujours le lieu de communication entre le ciel et la terre. Voilà, sur l'autel, on va avoir en quelque sorte l'humanité qui s'apporte en apportant le pain, le vin, quelque chose de très terrestre, et en même temps la gloire de Dieu, l'Esprit Saint qui va descendre et qui fait que ce qui sera sur l'autel sera plus du ciel que de la terre. La montagne, c'est le lieu toujours dans la Bible où se passe quelque chose. C'est le lieu de la communication entre le ciel et la terre. Alors je vous renvoie au texte numéro 7, en bas de la page. Donc c'est la présentation du missel romain au numéro 298. Il convient que dans toutes les églises, il y ait un autel fixe qui signifie de manière claire et permanente le Christ, pierre vivante. Voyez, on nous cite 1 Pierre 2, 4. Donc, voilà. Donc, ça veut dire d'ailleurs qu'on va, à travers cette citation, on va signifier donc à la fois le Christ pierre vivante et les fidèles pierres aussi. Hein, c'est la citation que je vous ai mise au dos de la page. Mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées, l'autel peut être mobile. L'autel est appelé fixe, il est construit de telle sorte qu'il adhère au pavement et ne puisse donc pas être déplacé. On l'appelle mobile s'il peut être déplacé. Voilà. C'est bien, on a de la chance, tout va bien, touche du bois. Alors ça c'est le problème, quand je fais ce type de conférence et que vous avez, j'imagine dans un foyer de charité, je pense à certains, tiens je vois l'autel, il n'est pas fixe. Bon, mais il est beau, c'est une belle table en bois. Bon, je suis toujours un souci, bon. Non, à ce moment-là, je passe vite fait, j'enlève à ce moment-là. C'est pas grave. Bon, enfin, faut comprendre. L'idée, c'est que c'est un roc, c'est-à-dire que tu vas pousser l'autel, mais t'arrives pas, tu vois. C'est inébranlable, comme le Christ, quoi. Hein, le Seigneur, on bâtit sa maison sur le roc. Et là, on bâtit sur la pierre, et donc, il y a la tempête, tout ça. Eh bien, il y a toutes les inventions liturgiques de chacun des prêtres, mais peu importe les inventions liturgiques, l'autel restera. Au moins, ça, c'est bon. C'est un roc, voilà. Ça veut dire ça, hein. Ça veut dire que c'est solide. Et puis, l'autel va représenter le Christ. Donc, enfin, je l'ai déjà dit, qui représentait le Christ. On dit du Christ qu'il est l'autel, le prêtre et la victime. Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? Dans la cinquième préface pascale. Quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. On parle du Christ comme de l'autel. Alors, le prêtre, on comprend. Hein. Là, je vous ai mis les références. Hein, pareil, donc c'est juste au-dessus du texte numéro 7. Pour le prêtre, je vous ai mis Hébreux 4, 14. Hein. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Il est le véritable prêtre. Il y a un seul prêtre, qui est le Christ, et qui va se servir de Père Paul, mais comme d'un instrument. Mais c'est lui le prêtre. D'accord? Et il est aussi la victime. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Donc il est la victime, il est le prêtre, et il est aussi l'autel. J'ai mis les deux citations de l'Épître aux Hébreux parce que l'Épître aux Hébreux, c'est la grande réflexion sur le nouveau sacerdoce. Il y avait un sacerdoce dans l'Ancien Testament, mais en fait, dans l'Ancien Testament, le prêtre, il n'était pas la victime. Hein, le prêtre, il offrait une victime, mais il ne s'offrait pas lui-même. Dans l'Ancien Testament, le prêtre, il offre une victime. Ben, il fait des sacrifices, vous comprenez? Mais attends, on te dit que dans le Nouveau Testament, eh bien, le Christ est à la fois le prêtre et la victime, et donc quand tu célèbres, que tu sois prêtre ou que tu sois laïque, tu dois aussi t'offrir. Sous-entendu, pas de religion extérieure. Et déjà, le livre d'Isaïe le disait, vos fêtes, vos nouvelles lunes, et machin, j'en veux pas, je hais vos sacrifices, vos fumées, elles m'étouffent. Ce que je veux, c'est un cœur brisé. C'est-à-dire, je veux que vous soyez à la fois prêtre et victime, ensemble, les deux. Comme le Christ, qui est le prêtre, le véritable prêtre, qui va instituer le sacerdoce, le jeudi saint, et qui va aussi s'offrir lui-même, il est aussi l'autel. L'autel, c'est-à-dire le lieu du sacrifice. Rappelez-vous, je suis le temple nouveau. Hein? Je suis celui qui reçoit le sacrifice. L'autel, c'est le lieu où on reçoit le sacrifice. Pourquoi il reçoit le sacrifice? Parce qu'il est Dieu. Seul Dieu peut recevoir le sacrifice. Et le Christ est vraiment Dieu. Alors, il est la victime. Et cette victime, on va la symboliser par les cinq croix que nous avons sur l'autel. Quand vous soulevez la nappe, eh bien, vous verrez, vous avez cinq croix. C'est très beau, la liturgie de la consécration d'une autel, d'une église, pardon, c'est comme une liturgie baptismale. On va asperger l'assemblée, on va mettre l'encens sur l'autel, on va oindre, faire cette onction d'huile sur l'autel, comme on fait sur un nouveau baptisé, on va mettre la nappe comme on mettrait un nouveau vêtement au baptisé. C'est marrant, c'est calqué, c'est très impressionnant. Et voilà. Et donc, avec ces cinq plaies, je me rappelle des cinq plaies du Christ, hein, le côté du Christ et les pieds et les mains. On va oindre, faire cette onction donc sur l'autel pour signifier que le Christ a reçu l'onction. Hein. Il est celui qui porte en lui-même l'Esprit Saint. De toute éternité, il porte en lui-même l'Esprit Saint, mais il a comme reçu d'une manière symbolique cette onction à son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps. Alors, quand on parle de l'autel, je fais une petite digression. Le livre de l'Exode dit ceci, chapitre 20, verset 24, Exode 20, 24. Tu me feras un autel de terre, sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion. Si tu me fais un autel de pierre, ne le bâtis pas de pierre taillée, car en le travaillant au ciseau, tu le profanerais. On nous dit dans l'Ancien Testament, eh bien, l'autel doit être de terre, pas de pierre. Pourquoi pas de pierre? Parce que si tu fais un autel de pierre, eh bien, tu vas être obligé d'utiliser un instrument de guerre. Parce qu'un ciseau, c'est un instrument de guerre. Et à quoi sert l'autel? L'autel, il sert au pardon. Donc, comment peux-tu mettre un instrument de guerre qui sert donc sur un objet, sur l'autel qui sert à pardonner. Hein, pourquoi on offre des sacrifices pour demander le pardon? Et alors les rabbins, ils réfléchissent, ils disent, mais en fait, pourquoi l'homme a été créé de terre, comme l'autel? C'est intéressant. Pourquoi il a été créé de terre? Et ils disent, en fait, eh bien, peut-être qu'il a été créé de terre, l'homme, avec cette glaise où on va souffler dessus, Dieu va souffler pour qu'il devienne un être vivant. Il est créé de terre, comme l'autel est créé de terre, pour dire que ce qui va permettre sa survie, c'est le pardon. L'autel, comme l'homme, eh bien, a ça en commun, il est de terre, parce que dans les deux cas, eh bien, ce qui va lui permettre de rester en vie, ou ce qui est lié à sa fonction, eh bien, c'est ce pardon. Je cite le Talmud. Dieu a dit, l'autel du temple de Jérusalem est fait de terre, que l'homme soit fait de terre, et puisse-t-il résister? Voilà. Oui, les autels sont en pierre, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais après, il ne faut pas non plus. Faut pas dire. Mais en même temps, par rapport à cette liturgie juive, voilà, on donne une autre symbolique en disant que ça doit être de pierre, parce que ça doit être solide. Donc nous, on a associé une autre symbolique. Mais on peut très bien, vous voyez, réfléchir, mais là, c'est plus par rapport à l'homme. Parce que, vous voyez, que l'homme soit fait de terre et puisse-t-il résister? Et ils disent, mais en fait, ce qui fait qu'un couple va résister, eh bien, c'est qu'il va y avoir, comme l'autel, en fait, puisque l'autel sert au pardon, eh bien, le couple, en fait, dire à un couple, tu décides de t'aimer pour toujours, ça veut dire tu décides de te pardonner. Tu décides d'être comme l'autel. L'autel, il est fait pour le pardon. Il est fait de terre. Eh bien, le couple, c'est pareil. Il est fait de terre, c'est-à-dire qu'il sert au pardon, ou il est lié au pardon, si vous préférez, pour résister. Pour durer dans la vie, eh bien, surtout, que le pardon soit au principe de votre couple. Donc, vous voyez, le Talmud, il est plutôt à réfléchir à Adam, plus qu'à réfléchir à l'autel. Bon. Alors, cet autel, comme je vous ai dit, il représente le Christ, et il représente aussi nous qui sommes pierres vivantes. Et du coup, vous avez dans l'autel les reliques. Pourquoi nous avons des reliques de saints, parce que en fait, des hommes avant nous et après le Christ ont donné leur vie comme le Christ a donné la sienne. Et donc, vous savez que les premières messes étaient célébrées sur les tombeaux des martyrs. Alors, vous avez un beau texte qui, oui, mais que je ne vais pas forcément lire. Le texte suivant. Le texte numéro 8, qui est un texte de Sœur Marie-Paul, du monastère des Bénédictines au Mont des Oliviers. Bon, enfin, on lit juste les deux premières lignes. Hein. C'est toujours sur le corps qu'est célébré le sacrifice. Ainsi l'avaient compris les premiers chrétiens qui célébraient sur les tombeaux des martyrs. Quand nous participons à une messe, ce n'est pas la pierre d'autel qui vibre, ce n'est pas la pierre qui vit l'offertoire, la consécration, la communion, c'est le participant qui vit tout ce qui se célèbre sur l'autel. La célébration de la messe exprime au dehors ce que Dieu fait en nous, au dedans. Hein, en fait, l'autel, c'est nous. Hein. J'ai dit que c'était le Christ, mais c'était nous aussi. Hein. Tout ce qui se vit sur l'autel, eh bien, doit se vivre en nous. Du coup, puisque l'autel représente le Christ, eh bien, il y a des petites indications que, bien sûr, j'ai pas mises là. Non, j'ai pas mises là. Mais je vous lis, par exemple, la présentation du missel romain, dit ceci au numéro 305. Numéro 305. On observera la modération pour orner l'autel. Hein, vous voyez, l'autel ne va pas être une table. On met des tas de trucs. Je mets mes lunettes, je mets je ne sais pas quoi, des tas de choses. Non, attention. Il faudrait qu'il y ait le moins de choses possible. Hein, parce que ce n'est pas un truc pour porter des objets. C'est un truc qui signifie le Christ. Vous voyez, par exemple, il est marqué dans le rituel de mariage que les registres seront de préférence signés en dehors de l'autel. Voilà. Hein, c'est pas. Alors, les gens aiment bien faire une super photo sur l'autel, mais l'autel, c'est lieu pour faire les sacrifices, c'est pas pour signer des registres. Bon. Donc, il faut se débrouiller. Bon. Moi, j'ai vu que, par exemple, la table de communion, là, à Saint-Pédis, est assez haute. Donc, les gens peuvent signer le registre. Par exemple, pour les baptêmes, je fais signer là-bas maintenant. Voilà, on peut apporter une petite table pour signifier, enfin, on peut voir. Bon, après, c'est pas dramatique, hein, de manière. Bon. Mais enfin, voilà, vous avez compris les choses. Pendant l'Avent, l'autel sera orné de fleurs, avec la modération qui convient au caractère de ce temps, et sans anticiper la joie plénière de la nativité. Pendant le carême, la décoration de fleurs à l'autel est interdite, à l'exception du quatrième dimanche, les tarés, des solennités et des fêtes, parce que pendant le carême, il peut y avoir des fêtes. La décoration florale doit toujours être mesurée, et plutôt que sur la table de l'autel, il est préférable de disposer les fleurs autour de l'autel. Vous voyez, donc les petits bouquets sur l'autel, c'est pas le lieu. Bon, tout ça, c'est très bien, parce qu'on apprend des tas de choses. Voilà, et de préférence, le prêtre ne va pas présider la messe à l'autel. Hein, il vient à l'autel pour le moment du sacrifice, mais il y a d'abord le moment de la parole, avant, il y a le moment de la réconciliation, donc il y a d'autres moments. Et donc on va signifier ce moment du sacrifice en présidant simplement à l'autel, ce qu'on fait ici de manière admirable. Bon, alors, non, enfin, alors, ensuite, petite chose sur l'autel, dernière chose. Vous savez que dans le temps, enfin, pas toujours, mais les églises étaient orientées vers le soleil levant. Pourquoi ? Parce que les synagogues, avant, les synagogues étaient orientées vers le temple de Jérusalem. Hein, la synagogue, c'est le lieu où on va parler, on va lire la parole de Dieu. Hein, c'est un petit peu des groupes de prière. On va pas tous aller d'abord au temple. Et puis la synagogue, c'est pas un lieu où on fait des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice dans la synagogue. Hein. Les sacrifices, ils sont à Jérusalem, simplement. Donc, bon, le sacrifice est à Jérusalem, mais le lieu de la Torah, hein, va être bien orienté, parce que vous avez une boîte dans la synagogue, une boîte où sont renfermés les livres bibliques, les rouleaux, et bien la synagogue, la boîte, etc., je ne sais plus le nom, tout ça c'est bien orienté vers Jérusalem. Alors, le problème c'est qu'après le Christ, nous on ne va pas orienter nos églises vers Jérusalem, c'est fini. Le rideau du temple a été déchiré. Le temple de Jérusalem ne nous intéresse plus tellement. Ce qui nous intéresse, c'est le Christ. Et en méditant les Écritures, eh bien, les premiers chrétiens ont vu que le Christ, en fait, était comme ce soleil levant qui nous apportait la vie. qui nous sortait de nos ténèbres, hein, de la mort. Il était la lumière, il est la lumière, il est la résurrection et la vie. Et du coup, on a dit, prenons la nature, elle parle, et peut-être que le Christ, eh bien, le soleil, pourrait d'une certaine manière symboliser ce Christ, le soleil, comme soleil levant. Alors je lis le psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en livre le récit, et la nuit en donne connaissance. Rappelez-vous que quand Dieu crée le monde en 7 jours, le 4e jour, il va créer les astres, c'est-à-dire le soleil et la lune. C'est très intéressant, c'est-à-dire au centre des 7 jours, le jour central, ce sont les astres, le soleil et la lune. À quoi sert le soleil et la lune ? Oui, mais pas à éclairer dans la Genèse. Il sert le soleil, parce que d'ailleurs, on dit d'ailleurs, il y eut un premier jour, il y eut un second jour. Alors, il y a déjà un premier jour, un second jour, alors que le soleil, il est créé qu'au 4e jour. Comment il peut y avoir des jours s'il n'y a pas de soleil? Donc, c'est un récit parabolique, c'est un récit poétique. Hein, ne soyons pas là à dire, attendez, c'est pas cohérent. On te dit, on a créé le soleil et la lune pour fêter. Hein, pour la liturgie, hein, pour les fêtes et les... je sais plus trop, enfin il y a deux mots, les fêtes et les... moi j'ai plus la Genèse, hein, mais voilà. Donc ça sert pour la liturgie. Le soleil va te permettre de mettre en place le Shabbat, etc., etc. Ça va te permettre de rendre gloire à Dieu. Déjà dans la Genèse, on t'explique que le soleil, il va être comme une aide pour que tu puisses prier. Et donc je continue le psaume. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Et là, là se trouve la demeure du soleil aux limites du monde. Aux limites du monde, il y a la demeure du soleil. Tel un époux, il paraît hors de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. Le soleil, comme s'il était à l'est, tout au bout du monde, dans une tente, dans une petite maison, il sort. Il sort comme un époux qui va rencontrer son épouse, comme un conquérant joyeux. Hein? Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. C'est beau ce psaume. On nous présente le soleil comme un époux et comme Dieu lui-même, eh bien, qui vient à la rencontre de son épouse. Et du coup, la direction de l'Est, eh bien, fut choisie assez tôt. Et dans cette direction de l'Est aussi, on a associé aussi, la deuxième chose, le sens de la croix. En fait, il vient en conquérant, et comment Jésus vient? Il vient avec la croix pour donner la vie. Et du coup, le soleil et la croix comme deux éléments qui peuvent aller ensemble. Alors je lis Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Hein? Il vient. Alors on nous dit comme ça du Christ qui vient sur les nuées. Donc on nous parle aussi de la fin des temps. On nous parle comme quelqu'un qui est glorieux. Il représente le nouveau juge du livre de Daniel. Enfin, il y a toutes ces images-là qu'on a dans l'Ancien Testament. Il vient sur les nuées, on prend l'image de la nature, et chacun, même ceux qui l'ont transpercé, le verront. Donc on nous parle de la croix. Je prends pareil, Matthieu 24, 30. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, hein, comme le soleil apparaît, et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. Et l'on verra le Fils de l'homme. On nous dit, vous voyez, il y a un élément cosmique, et en même temps, on nous parle du mystère de la croix. Hein? Ben oui, le Christ, il vient, et comment il vient? Eh bien, il vient avec la croix. Et du coup, celui qu'on doit regarder, c'est le soleil, bien sûr, mais c'est surtout le Christ crucifié. Alors Benoît XVI, qui était pape à l'époque, il disait, bon écoutez, on a des églises qui sont pas tout à fait orientées, en fait, le prêtre, c'est vrai, célèbre face au peuple, donc lui-même n'est pas orienté, puisqu'il qui s'élève face au peuple. Mais peut-être que nous pourrions retrouver comme est, comme orientation, la croix. En fait, dans l'Écriture, on voit qu'est-ce que les gens regardent. Hein. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Où est-ce que nous devons regarder? Le soleil, bien sûr, le soleil, si vous voulez regarder le soleil, pourquoi pas. Mais c'est surtout vers la croix. Parce que c'est la croix qui nous apporte la vie. C'est la croix. Hein. Dans ses blessures, comme un soleil, dit le livre de Malachie, nous trouverons la guérison. Donc, eh bien, il dit que dans nos assemblées, nous retrouvions la croix comme ce lieu où on doit tous poser notre regard, tous être orientés pour avoir la vie. Et donc, il a dit, j'aimerais bien que sur les autels, on mette une croix. En fait, c'est concret. Voilà. Mais si ton église, elle n'est pas très orientée, c'est pas très grave. En tout cas, mets sur l'autel une vraie croix pour que les gens regardent. Alors là, à Notre-Dame de Lourdes, on peut dire que là, vous êtes gâtés. Là, vous on peut pas faire mieux, voilà. Et donc, voilà, nous, on a bien mis à Saint-Pédis, vous voyez, la croix au centre, et puis une belle croix sur l'autel, pour que le prêtre voit la croix, qu'il soit orienté vers l'autel, et puis que les fidèles soient aussi orientés. Donc, c'est vrai, on regarde la croix, on regarde le Christ, mais aussi, vous regardez le prêtre, puisque le prêtre s'élève face à vous. Alors c'est à la fois, comment dire, une chance et aussi une difficulté, hein. Comment dire, puisque c'est une chance parce que ça dit quelque chose de la proximité peut-être du Christ qui est au milieu de son peuple. Mais vous ne pouvez voir le Christ en moi à l'autel aussi que si le reste du temps, lorsque je vis avec vous, je vis réellement avec le Christ. C'est ça la difficulté. Célébrer face à l'assemblée, c'est une exigence plus grande. Parce que comment tu vas te rendre compte du Christ qui est présent à l'autel si tout le reste du temps, en vivant avec toi, je vis à l'inverse de ce que je célèbre sur l'autel? Ma visibilité est comme une exigence plus grande pour moi. Vous comprenez? Voilà. Si je vous, bon, je vous tape sur la cuisse, tout ça, machin, c'est dur de prendre conscience que vous avez ensuite le Christ à l'autel. Ce qui veut dire que le prêtre, plus il est proche des gens, plus il doit être proche de Dieu. Bon, ça va. Alors, l'autel, voilà, on a bien compris, on a compris qu'il y avait une croix dessus, qu'il était du coup orienté vers le Christ. L'autel, on va l'embrasser. Pourquoi? Parce que dans la liturgie païenne, dans les premiers temps, eh bien, c'était une coutume de vénérer le temple en baisant le seuil. Voilà. Donc, c'est ce baiser de l'autel est tiré des liturgies païennes au départ. Le baiser de l'autel est un geste d'adoration, de même qu'on baise, eh bien, le Vendredi Saint, la croix. On signifie l'adoration. Le baiser de l'autel va signifier mon adhésion au mystère du Christ, mort et ressuscité. J'ai envie de dire qu'il y a les cinq croix comme les cinq plaies, et il y a aussi la pierre. Et la pierre, elle fait penser à quoi? La résurrection. Donc à la fois, je baise, j'embrasse le Christ mort et ressuscité. Alors, je prends le texte 9. C'est de qui, ça? Je sais plus. Non. Ah, c'est de Maurice Zindel. Oui. L'autel est vivant comme le sépulcre du Seigneur, ou comme le tombeau du Seigneur. La mort a fait son œuvre, mais on sent planer sur son silence la revanche prochaine de la vie. Cinq croix impriment en la pierre sacrée la lumière des cinq plaies. C'est bien le même Christ, suspendu naguère à ses blessures, qui maintenant triomphe dans la gloire. Il faut passer par la mort pour atteindre la résurrection. C'est ce que le veut exprimer le baiser, c'est ce que veut exprimer le baiser que le prêtre donne au Christ, gisant sous le symbole de la pierre sacrée dès qu'il accède à la table de l'autel. J'enlève le. Voilà, donc, voilà, tu embrasses l'autel, toi qui es prêtre, hein, c'est comme si tu embrassais le Christ mort et ressuscité que tu t'offrais comme le Christ veut s'offrir. Tu adhères à ce mystère d'offrande. Hein. Tu dis d'une certaine manière, me voici. Hein, vous avez dans le livre d'Isaïe, donc au chapitre 6, le prophète Isaïe, il est dans le temple et il y a cette gloire de Dieu. Il dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et qu'est-ce qui se passe? Le séraphin prend une braise et va purifier le prophète. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, le prêtre va embrasser l'autel comme s'il purifiait ses lèvres, hein, un peu ce même geste, pour que tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va être, eh bien, soit pur. Dans l'ancien temps, le texte numéro 15, en montant à l'autel, le prêtre disait ceci. Texte numéro 15. Enlevez nos iniquités, Seigneur, afin que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure. Là, il posait les mains. Et il dit, nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, il embrasse l'autel, dont les reliques sont ici, et de tous vos saints, de daigner me pardonner tous mes péchés, ainsi soit-il. Alors c'est pour ça que geste de purification, mais aussi geste, comment dire, amoureux, où le prêtre, d'une certaine manière, salue l'Église triomphante. Hein? Salue, eh bien, en saluant ses reliques, en embrassant ses reliques, il embrasse d'une certaine manière l'Église épouse. Hein, qui a donné sa vie, qui est dans la gloire. Et alors, Innocent III disait, à propos du baiser de l'autel, dans la personne de l'évêque qui baise l'autel, c'est le Christ qui salue sa fiancée. Hein? Pourquoi dans la personne de l'évêque? Parce que le véritable prêtre, c'est l'évêque, en fait. C'est lui qui a la plénitude du sacerdoce. Le prêtre est toujours en obéissance à l'évêque. Hein? Mais quand il y a un évêque, c'est toujours lui, en général, qui préside la messe. C'est lui qui a la petite canne là pour attraper les brebis, c'est lui qui a l'anneau, hein? C'est lui le véritable pasteur, c'est lui le véritable époux. Et donc en embrassant l'autel, il salue sa fiancée. Donc c'est là où vous voyez quand j'ai pris comme titre l'époux et l'épouse autour de l'autel, vous avez l'autel qui signifie l'époux, le Christ, avec ses reliques qui signifie l'épouse. Et puis autour de l'autel qui signifie l'époux et l'épouse, vous avez aussi l'évêque qui signifie l'époux et l'épouse qui est l'assemblée en face de lui. Et il va y avoir tout au long de la messe cet échange entre l'époux et l'épouse. Et donc c'est à la fois, enfin vous voyez, le Christ est partout. Il est dans l'assemblée, il est dans le prêtre, il est dans l'autel, etc. Et le prêtre embrasse l'autel, qui tout est en tout. C'est merveilleux. Enfin c'est extraordinaire. Voilà, on va encenser l'autel, hein, pour signifier cette offrande. L'encensement exprime le respect et la prière, comme l'indique la Sainte Écriture. Comme dit la présentation du missel romain au numéro 276, l'encens exprime le respect et la prière. La prière, c'est quoi, hein? Quand on parle de la prière dans la Bible, c'est l'offrande de soi. Hein? Offrez vos personnes en hostie sainte, c'est là le culte spirituel. Le Christ s'est offert à son Père en bonne odeur. Éphésiens 5, 2. Je lis Éphésiens 5, 2. Suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Donc, à travers l'encens, je comprends que moi aussi, eh bien, je dois m'offrir, hein, comme cet an monte vers le ciel. Comme il est brûlé, parce que l'encens c'est quelque chose qui est brûlé, eh bien moi aussi, je dois offrir ma vie, brûler, passer l'aspirateur, même si ça m'embête, etc. Enfin tout quoi. Bon, aimer. Bon, ça veut dire aimer, hein. Bon. Et puis l'encens signifie aussi donc cette prière qui monte, la prière du peuple. Hein, Apocalypse 5,8. Quand il l'eut pris. Les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums la prière des saints. Voilà, donc tout ce monde dans l'Apocalypse, eh bien, avec des coupes, eh bien ces coupes, et comme l'encens qui monte, signifie la prière des saints. Voilà. Bien, alors on va lire un dernier texte très, comment dire, factuel. Le texte numéro 16. Voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit sur l'autel, voilà, qui représente le Christ, qui représente l'Église, qu'on vénère, qu'on honore, qu'on encense. Eh bien, conséquence, l'autel sera couvert d'au moins une nappe de couleur blanche. Sur l'autel ou alentour, on mettra des chandeliers avec des cierges allumés, au moins deux pour toute célébration, ou même quatre ou six. Surtout s'il s'agit de la messe dominicale ou d'une fête de précepte, ou encore sept si c'est l'évêque du diocèse qui célèbre. Pourquoi sept? Je pense que oui, je pense que c'est surtout que ça fait référence à la menorah. Voilà, le chandelier à sept branches que nous avons dans le temple et qui signifie la présence du Christ, la présence de Dieu, pardon. Et donc, comme l'évêque est là, eh bien, tu peux mettre sept parce que lui, il est celui qui présente, qui rend présent vraiment le Christ. Quand l'évêque est là, on est en sécurité. On est sûr, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Là, c'est bon, là. Tu es attaché à Dieu. Si tu es attaché à l'église, tu es attaché à Dieu. Alors j'ai un ami là qui est en train d'écrire un livre sur toute la tradition juive en lien avec la messe. Hein? Donc ça sera le monsieur Nadler, Jean-Baptiste, un prêtre, le frère d'un certain Mathieu Nadler, qui habite pas très loin. Il y aura aussi sur l'autel ou à proximité une croix avec l'effigie du Christ crucifié. Les chandeliers et la croix avec l'effigie du Christ crucifié pourront être portés dans la procession d'entrée. Hein, pourquoi on met dans la procession d'entrée? Pour comprendre vers où on va. Hein. Ben on va vivre le sacrifice, donc c'est pour ça que c'est important que la croix soit en premier. Sur l'autel même, on pourra mettre, à moins qu'on ne le porte dans la procession d'entrée, l'évangéliaire, distinct du livre des autres lectures. Voilà, donc ça, on expliquera pourquoi l'évangile a un statut particulier par rapport aux autres lectures. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ?